Chaque détail de l'univers est un abîme de complexité, souvent une source intarissable d'émerveillement. Le frottement d'un plectre sur une corde de clavecin durant l'interprétation d'une suite de Bach, la saccade des ailes d'une mouche dans le soleil de petit matin, demeure absolument sidérant. Tant, au moins, que nous n'avons pas tout perdu de l'ingénuité de notre regard d'enfant. L'univers est immensément étrange. Aurélien Barraud est ce soir notre invité et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Georges Brassens.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, braves gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Aurélien Barraud, quand, à quel âge avez-vous regardé pour la première fois les étoiles? Vous en souvenez?
Ah, c'est toujours un peu compliqué de recréer la généalogie d'une passion ou d'une affinité. Je crois que ça se fait finalement souvent de façon un peu progressive. Je crois pas tellement comme ça au coup de foudre avec la nature ou avec l'immensité ou avec l'étrangeté ou avec le divin. Moi, j'aime les passions qui se construisent petit à petit par une sorte de porosité avec l'altérité. Et je crois que ce qui m'attirait, c'est que quand on regarde le ciel, c'est peut-être un des rares moments où on est à peu près certain d'échapper à toutes nos pulsions narcissiques ou égotiques. Pour une fois, on tente de faire face à quelque chose qui nous dépasse absolument, radicalement. Et c'est quand même ça, je trouve, qui est très beau ici.
Mais est-ce que les enfants ne le font pas souvent justement quand ils portent leur regard vers la voûte céleste ?
Mais c'est ça qui est magnifique finalement, c'est qu'il y a autant de voûtes célestes que de regards qui se portent sur elles. Et je trouve que le plus difficile aujourd'hui, c'est parfois de la regarder justement avec cette ingénuité presque préconceptuelle, de pouvoir à nouveau contempler les petits points comme s'ils étaient des petits points, oublier que nous savons que ce sont des étoiles, oublier que nous savons que ce sont des objets thermonucléaires qui brûlent de l'hydrogène en hélium. Vous savez, le peintre Paul Cézanne avait envie parfois qu'on retrouve une vision préconceptuelle du réel, antéprédicative, voir les choses comme elles sont. Et moi, c'est ça que j'aime bien essayer de retrouver parfois en regardant le ciel. Et en fait, ce regard d'enfant, c'est peut-être celui vers lequel il faut justement parfois savoir tendre à nouveau.
Comment vos parents vous ont-ils élevé ?
Avec beaucoup d'amour, et c'est l'essentiel. Mes parents ne sont pas scientifiques, ni l'un ni l'autre, donc je n'ai pas du tout baigné dans une culture de l'astronomie, ni de la physique, ni de la philosophie d'ailleurs, mais ils m'ont donné l'attention et l'affection qui sont évidemment les constituants fondamentaux d'une possibilité de devenir.
Avez-vous eu un moment où vous avez estimé que vous aviez une vocation ?
Oui, je crois que vient un moment où le désir prend la forme d'une nécessité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une profession, c'est pas simplement un hobby, c'est pas simplement... J'allais dire, ce n'est pas simplement une passion, parce que passion, étymologiquement, c'est le contraire d'action. Donc ça reste encore quelque chose qui nous met en situation d'être agi. Je crois qu'il y a un moment où ça prend la forme d'une inévidente évidence, en quelque sorte, c'est-à-dire de quelque chose dont l'amputation serait un véritable renoncement à la ligne de vie fondamentale. Alors peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je serais pas astrophysicien si je recommençais. Mais peu importe, je regrette quand même pas cette vie.
Mais vous avez longtemps hésité, et d'ailleurs vous continuez à faire le va-et-vient entre la science et la philosophie. Qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir plutôt la science que la philosophie, même si je crois que vous avez passé un doctorat en philosophie, et s'il faut converser avec les plus grands des philosophes, récemment vous avez fait un livre absolument remarquable avec Jean-Luc Nancy, vous continuez cette recherche philosophique.
C'est gentil. Je crois que c'est plus facile d'expérimenter, en ce qui me concerne, c'est évidemment très, très à la marge et très anecdotiquement, mais c'est plus facile d'expérimenter vraisemblablement dans un domaine littéraire ou dans le domaine des sciences humaines et sociales que dans le domaine des sciences dures qui, hélas, requièrent une technique à la fois au sens littéral. Quand nous avons besoin de télescopes, eh bien on peut pas les mettre dans nos jardins, ce sont des télescopes professionnels un peu démesurés, ou technique au sens plus métaphorique, parce que le savoir-faire, je dirais calculatoire, doit être une sorte de savoir ab initio vers lequel il est plus difficile de se tourner par la suite. Mais vous savez, d'autres choix étaient possibles. Aujourd'hui, par exemple, je trouve que la vie, le vivant, la biologie, c'est peut-être plus important que l'astrophysique. Je crois que c'était à refaire aujourd'hui, essayer de mieux comprendre la vie, mais la vie en tant que telle, pas la biologie cellulaire, tout ça est très bien, très intéressant, la génétique, tout cela est magnifique. Mais je veux dire, la vie au sens simple, l'éthologie, les comportements, comprendre les comportements des animaux alors même que la vie s'étiole sur Terre, ça me semble aujourd'hui presque plus important que de comprendre les trous noirs ou l'origine de l'univers.
Mais malgré votre jeune âge, Aurélien Barreau, vous avez fait différents stades à l'intérieur de l'expérimentation de votre pratique de scientifique. Vous pratiquez donc les sciences ô combien exactes, et pourtant vous nous dites, à l'intérieur de vos livres, que les sciences exactes ne sont pas si précises que cela.
C'est une question compliquée, et je trouve qu'il y a parfois une forme d'arrogance un peu naïve dans un scientisme qui se penserait non pas comme une description, une traduction ou une activité discursive sur le réel, mais qui se rêverait comme un dévoilement. Finalement, c'est le sens presque étymologique de vérité, aletheia en grec, le dévoilement, comme si le scientifique pouvait lever ce voile et nous montrer le monde en tant que tel. Je crois que cette idée est tout à fait désuète, qu'elle n'est soutenue ni par la philosophie des sciences, ni par la pratique des sciences. Mais pour autant, ça ne signifie pas, bien évidemment, que la science est inintéressante, ça ne signifie pas qu'elle ne dit rien, ça ne signifie pas qu'elle est inutile ou arbitraire. Moi, je crois qu'elle est une manière de faire un monde parmi d'autres, sans velléité hégémonique. Et finalement, ça ne l'amoindrit pas. J'aimerais presque plaider pour un droit à la physique, puisque c'est mon domaine, à n'être pas la seule version correcte du réel. Finalement, penser la science comme un art, c'est pas du tout faire offense aux scientifiques, au contraire. Moi, je serais extrêmement fier d'être un peu un artiste.
Et on dit qu'il y a des vérités scientifiques. Quelle est votre définition de la vérité? Acceptez-vous ce terme de vérité scientifique?
Déjà, quand on le dit au pluriel, c'est mieux. Si on avait dit une vérité scientifique, ça m'aurait mis dans une posture de un petit peu de rejet épidermique. Dès qu'on dit des vérités, ça veut dire que déjà on se laisse infecter par une pluralité qui est du meilleur augure. Bon, c'est très difficile de se passer de la vérité. La vérité, c'est un maître concept, c'est la règle du jeu. On peut pas gommer le mot vérité du langage parce que c'est une exigence. On le voit bien dans le champ historique, on le voit bien dans le champ même de la parole donnée. Finalement, tout langage repose sur une exigence de vérité. Mais je crois que l'exigence de vérité n'est pas plus grande en science que dans les autres champs cognitifs. Et finalement, elle est peut-être même un peu plus faible, non pas au sens où la science serait un laxisme, ce qui est faux, mais au sens où la science a parfaitement conscience d'être une histoire d'erreurs rectifiées, c'est-à-dire une histoire de révolution et donc une histoire de paradigmes qui se succèdent les uns les autres en réécrivant à chaque fois la grammaire du réel. Et donc finalement, la seule chose qu'on sait en science, c'est que nos théories sont intrinsèquement fausses. Elles n'en sont pas moins intéressantes, naturellement.
Comment vous définiriez le réel aujourd'hui, Aurélien Barreau?
Oh, je crois que cette question est trop lourde pour mes frêles épaules, mais...
Il y a des philosophes qui l'ont pris à bras le corps. Je pense par exemple à Clément Rosset, le réel et son double.
Ah, j'aime beaucoup
et
Clément
des gens
Rosset,
comme ça. Ouais. Du réel, vous parlez sans arrêt, mais on a l'impression qu'il est évanescent et qu'il peut avoir différentes définitions.
Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'assume cette évanescence. J'aime les... comme vous le savez, les philosophes de la faille, du trouble, du doute et de l'incertain. Et je pense que, revenons un instant à Descartes, par exemple, le père de tous les philosophes français depuis quelques siècles. Descartes est génial quand il fait du doute une sorte de méthode. Mais il est beaucoup moins intéressant quand il réinvente le cogito, c'est-à-dire ce sur quoi se fonde tout le reste. Moi, je crois que le réel, aujourd'hui, on pourrait le défonder au sens littéral, c'est-à-dire accepter cette sorte de pluralité ontologique qui fait que les choses... Là, si je regarde ce gobelet qui est en ce moment devant moi dans le studio...
Vous avez remarqué qu'il est en carton, hein,
il n'est pas en verre, il est en plastique. Il n'y a plus de petites bouteilles, maintenant il y a des carafes à la maison de la radio en verre, c'est incroyable, là. La révolution écologique est en cours. Et donc,
c'est vous qui dites que ça commence par des petits gestes, oui.
Ah non, mais je me plaindrai pas, moi, heureusement. Eh bien, bien sûr, c'est un ensemble de quarks et de gluons, dirait le physicien, mais c'est un ensemble de molécules, dirait le chimiste. Et finalement, c'est une source d'inspiration, dirait l'artiste. Et finalement, pour la bactérie qui vit à sa surface, c'est le monde en lui-même. C'est le monde en lui-même, c'est la totalité du monde pour les bactéries qui ne quitteront jamais ce verre, et que j'espère pas trop nombreuses, cela dit en passant. Et donc finalement, je crois que c'est une illusion que de chercher le réel en tant que tel. En revanche, bien sûr, on peut inventer des prismes de projection sur le réel, mais une fois que celui-ci est défini, là, on peut avoir des réponses qui sont tout à fait non contractuelles et qui relèvent d'une forme d'objectivité.
Les vérités scientifiques procèdent-elles, selon vous, Aurélien Barreau, d'une accumulation de connaissances? Et pensez-vous qu'aujourd'hui, on s'appuie sur des socles précédents pour continuer les recherches?
Oui et non, parce que du point de vue, je dirais, de l'observation du réel, c'est un peu vrai, bien sûr. On en sait plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, et si je veux calculer la position du Soleil dans 3 semaines, j'ai intérêt à utiliser la théorie gravitationnelle contemporaine sur des ordinateurs contemporains, et non pas le modèle aristotélicien. Donc bien sûr que du point de vue de la capacité de prédire, et du point de vue de la totalité du savoir engrangé, il y a une forme d'accumulation. Mais pour ce qui est de la dimension intéressante du réel, c'est-à-dire son accès à une description du monde en tant que tel, alors je crois que c'est pas du tout un fonctionnement par accumulation, c'est un fonctionnement par rupture, puisque quand on passe de la théorie de Newton, par exemple, qui dit qu'une force attire la Lune, à la théorie d'Einstein, qui énonce qu'il n'y a pas de force, que la Lune avance dans un espace courbé par la présence de la Terre, on réécrit totalement la syntaxe et le vocabulaire du monde en tant que tel. Et donc, ces changements de paradigme étant incommensurables les uns aux autres, on peut pas réellement dire qu'on fonctionne par accumulation. Et si je voulais être provocateur, je dirais même que c'est pas facile comparer ces paradigmes. Parce que les attentes sont pas les mêmes. Donc bien sûr que si je veux calculer la position d'une planète, le paradigme einsteinien est bien meilleur que celui de Ptolémée, il y a aucun doute. Mais si par contre, je veux m'intéresser par exemple aux ramifications politiques d'un modèle cosmologique, il est tout à fait évident que le paradigme du Maat chez les Égyptiens est beaucoup plus puissant que la physique théorique contemporaine, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Et ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier parce qu'il y a aussi une visée dans l'élaboration d'un modèle. Ce n'est jamais une description froide, me semble-t-il, de l'en-soi des choses.
Une visée et une attente d'une vision du monde, peut-être aussi.
Voilà, ça fonctionne un peu en rhizome, comme dirait Deleuze. C'est-à-dire que si on extrait simplement la capacité de prévoir, on prend la science par le petit bout de la lorgnette. Et c'est pas celui-là qui est très intéressant. Et je crois que on doit aussi la juger du point de vue de sa capacité à réorganiser l'ensemble d'un champ cognitif. Et donc, effectivement, elle peut aussi avoir une dimension poétique, une dimension politique, une dimension sociale, ou que sais-je, se bouturer avec beaucoup d'autres formes de savoir.
Je voudrais vous faire écouter la voix de quelqu'un qui manifestement est important dans votre démarche scientifique, poétique et philosophique, Aurélien Barreau. Je veux parler d'Antonin Artaud qui va lire un extrait de Aliénation et Magie Noire. C'est une archive INA de 1946.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé Bardo.
Alors nous venons d'entendre la voix d'Antonin Artaud et vous vous revendiquez de toutes les cultures, de toutes les modes, de tous les modes d'appartenance du savoir, y compris ceux qui sont un peu prophétiques et qui recourent à la magie.
La voix de sorcière d'Artaud, et c'est vrai que quand il parle d'électrochoc, il en parle en connaissance de cause, n'est-ce pas? Mais bien sûr, écoutez, soyons quand même, soyons honnêtes. L'Occident a engendré, dans le siècle dernier et avant naturellement, une catastrophe coloniale à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, il engendre une catastrophe écologique à l'échelle planétaire qui va s'avérer suicidaire, en particulier pour lui-même. Et même face à ce désastre, même face aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, même face aux horreurs de la néocolonisation encore contemporaine, il ne parvient pas à douter de la moindre de ses valeurs. Moi, je crois que tous ceux comme Artaud, comme Genet, comme Pasolini, comme tous ces poètes un peu maudits qui ont créé des failles dans les certitudes de l'arrogance techno-scientifique occidentale sont des passeurs et des sauveurs. On ne peut plus continuer aujourd'hui à se croire être les détenteurs du seul geste culturel signifiant à l'échelle universelle. C'est éthiquement scandaleux, c'est culturellement stupide et c'est politiquement suicidaire. Alors bien sûr que quand Artaud se moque des médecins, ça ne m'empêchera pas d'aller personnellement voir un médecin quand j'aurai effectivement mal quelque part. Mais c'est pas ça qui est en jeu ici. Ce qui est en jeu ici, vraisemblablement, c'est l'invention du corps sans organes qui a ensuite beaucoup intéressé Deleuze et Guattari. Et c'est de comprendre qu'il y a aussi, en parallèle de ce qui est très utile, naturellement dans la médecine, une volonté hégémonique de domination du corps dans l'oubli de son organicité même, qui évidemment pose problème. Il serait temps en effet que nous renouions avec la possibilité d'autres savoirs.
Alors vous êtes un homme, un vrai, vous êtes marié, vous avez deux enfants, j'aimerais bien, sans être indiscrète, que vous nous racontiez comment vous avez choisi le jour de votre mariage, Aurélien.
Oui, alors c'est une situation un peu délicate parce que je suis en train de divorcer. Mais c'est pas grave.
Je ne savais pas, pardon.
Mais écoutez, mais mon
vous
mariage...
Vous allez peut-être choisir le jour de votre divorce.
Mon mariage n'en a pas moins existé, donc il fait partie du réel. Et oui, nous nous sommes mariés le jour de l'éclipse. Bon, c'est un peu un clin d'œil, hein. Soyons honnêtes, c'est un peu kitsch quand même. Bon, écoutez, c'était
c'est
mignon.
C'est dangereux.
Ça tombait au bon moment, voilà. Et puis... Je me souviens que j'avais synchronisé un concerto de Bach avec l'arrivée de l'éclipse et ça a assez bien fonctionné. Et je dois dire que cette lumière blafarde qui est à la fois obscure et pourtant se déroule au plein cœur de la journée, ça laisse quand même une impression assez sidérante. Ouais.
Ben, y a Lars von Trier qui a fait un film autour de ça.
Mélancolia, c'est extraordinaire.
Mélancolia.
Moi, je trouve que c'est un des plus grands films des 20 dernières années.
Ça se termine pas bien, alors faites attention.
Mais rien ne se termine jamais bien, on le sait. Mais quand même, ça se termine aussi avec Wagner. Même si c'est la fin du monde, c'est pas mal comme fin du monde. Cette espèce d'accord dissonant où d'un seul coup, on ne le résout pas comme ça et on reste dans l'incoatif d'un avenir qui est quand même encore possible. Je trouve que c'est pas si mal, finalement. C'est pas si mal, voilà.
La lumière, comment vous la définiriez? C'est le noir qui vous intéresse, vous?
Alors, ça serait facile de répondre par une pirouette rhétorique autour du noir, puisque je travaille sur les trous noirs, je travaille sur l'énergie noire, je travaille sur la matière noire. Donc, ma casquette d'astrophysicien est incontestablement portée vers le noir, vers le sombre. Je dirais même qu'en termes littéraires, maintenant, je m'intéresse de plus en plus à la littérature noire, parce que je trouve que l'Afrique est tellement l'oublié de notre culture que nous avons ici des trésors à redécouvrir dans une vision qui ne soit ni paternaliste ni néocoloniale. Maintenant, la lumière, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus parce que ce qu'on découvre aujourd'hui en astronomie, c'est l'incroyable foisonnement des cieux qui peuvent être scrutés avec des énergies beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que celles auxquelles nos yeux sont sensibles, et on découvre une sorte de miroitement de couleurs qui est assez prodigieux.
Qu'y avait-il avant la naissance de l'univers, puisque c'est un des thèmes de vos recherches, Aurélien Barraud?
Alors, il y a deux réponses. Il y a la réponse du professeur d'université respectable.
Vous êtes?
Ah, vous en jugerez.
Ah, respectable, j'en sais rien, mais professeur d'université, oui.
Voilà, alors qui consiste à dire, votre question est mauvaise, parce que le Big Bang est la naissance du temps. Donc, il ne peut rien y avoir avant le Big Bang, puisqu'avant le Big Bang n'existe pas, un peu comme si nous recherchions le nord du pôle nord. Mais, bien sûr, cette réponse est insatisfaisante, puisque votre question, en réalité, était très pertinente. Mais alors, à ce moment-là, il faut répondre un peu en rocker ou en rappeur, et plus seulement en professeur d'université, parce qu'il faut recourir à des théories spéculatives, c'est-à-dire qui ne sont pas encore véritablement confirmées par les expériences. Et là, tout devient possible. Moi, dans les modèles qui m'intéressent, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion, et c'est donc un grand rebond, un big bounce, qui aurait eu lieu à la place du grand boom, le Big Bang.
Y a-t-il un monde ou des mondes?
Ah oui, alors la question du multivers ou du plurivers est aussi très intéressante. Elle traverse toute l'histoire de la pensée. Hein. On la trouve chez Anaximandre, chez Démocrite, on la retrouve à la Renaissance avec Rabelais, avec Giordano Bruno, avec Nicolas de Cuse, ensuite à l'âge classique avec Leibniz, en philosophie contemporaine avec Goodman ou Lewis. Donc c'est une question qui est obsédante pour l'esprit humain et qui a la bonne idée de faire effraction aujourd'hui dans le champ des sciences dures et en particulier en physique. Et en effet, il n'est pas exclu que le mot univers doivent maintenant se conjuguer au pluriel et qu'il soit donc légitime de référer à une multitude de mondes. Ce qui est particulièrement, je trouve, attrayant, c'est que ça suscite aussi un débat métaphysique, parce que la question de la légitimité scientifique d'une telle vision est-elle testable, est-elle popérienne, est-elle falsifiable, peut-elle être mise en défaut, est extrêmement subtile. Et ce que je trouve fascinant plus encore que l'idée du multivers elle-même, c'est qu'elle force les scientifiques à se poser des questions philosophiques que parfois ils ont un peu tendance à éluder.
Parmi les philosophes que vous affectionnez, vous avez cité tout à l'heure Gilles Deleuze, Félix Guattari, Descartes, il y a aussi Jacques Derrida, il y a aussi Paul Ricoeur. Je vous propose de l'écouter à propos du temps qui passe. C'est une archive INA du 9 mars 1985.
Pour ma part, je dirais que le grand âge, avec sa déchéance, m'effraie plus que la mort. On peut plus facilement arriver à un rapport fraternel avec le devoir mourir, l'avoir à mourir, que avec cette caricature d'humanité que peut être le grand âge. Je pense que ça demande un degré supérieur de sagesse d'accepter d'être totalement dépendant, comme un enfant, de refaire le cycle complet jusqu'à la vie quasi-végétative. Accepter cela, pour moi, ce serait... je veux dire l'accepter à l'avance, peut-être qu'après tout, dans ce grand âge, on est... La bénédiction, c'est qu'on ne le sait pas, mais de pouvoir l'anticiper, c'est une charge de pensée et une charge d'émotion quasiment insupportable. Je ne me sens pas d'affinité pour le fameux mot, qui est pourtant de Platon, que la vie est une méditation de la mort, la vie est une méditation de la vie, et je dirais qu'il faut vivre au jour le jour. Il faut vivre comme si il fallait plier bagage demain, mais aussi comme si on avait tout le temps devant soi. Moi, je dirais que pour mon propre travail, c'est ainsi que je me rapporte à ma propre mort. Je veux dire de ne pas en tenir compte et, par exemple, ne pas se hâter de terminer plus vite un travail ou un livre sous prétexte que le temps est compté, il l'est certainement, mais comme on ignore sur quelle somme totale d'années ou de mois ou de jours le temps que l'on prend ou que l'on dépense à faire quelque chose est retranché, c'est comme si l'on avait, comme tout autre, le même lendemain incertain, mais aussi le même lendemain sur lequel on peut compter. Le soleil se lèvera demain, et j'espère que mes yeux s'ouvriront pour le voir.
Alors nous venons d'entendre Paul Ricoeur, cet archive magnifique qui parle de beaucoup de choses, du temps, la définition du temps. Or vous, Aurélien Barraud, j'ai l'impression que vos recherches scientifiques vous mènent dans un labyrinthe de pensée qui exclut même la notion du temps.
Je crois que le temps n'existe pas au niveau le plus fondamental de la nature. Les particules élémentaires, quelque part, sont éternelles. Elles ne sentent pas l'écoulement du temps. En revanche, il semble que le temps émerge pour les systèmes complexes. Et c'est assez fin, finalement, quand on y réfléchit, parce que la vie est évidemment un système extraordinairement complexe. Et si on se demande ce que nous sommes, nous sommes notre histoire. Nous sommes notre histoire au sens génétique de l'évolution darwinienne des espèces, et nous sommes notre histoire au sens mémoriel. La différence finalement entre vous et moi dans cette pièce, c'est que nous n'avons pas la même mémoire. Nous avons un passé différent. Nous sommes notre passé. Et donc ce rapport au temps, c'est fondamentalement, je crois, ce qui définit les systèmes complexes, et il est d'ailleurs intéressant qu'en physique, il ne soit pas exclu que ça puisse même être considéré comme une définition de la vie. Finalement, les systèmes vivants seraient des objets qui ont un couplage, c'est-à-dire un rapport avec les autres objets du monde, qui maximise la production d'entropie, pardonnez-moi ce terme technique, mais ce qui signifie de façon plus claire, qui maximise la possibilité même d'un écoulement du temps. C'est parce que nous sommes vivants que nous ressentons le temps et que par conséquent nous mourrons.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Aurélien Barraud, Kerry James.
Il y en aura toujours un peu le froid. Y'en aura toujours un plus riche. À quoi bon mener au score dans un jeu où tout le monde triche? Puisqu'il s'agit de ressembler à tout le monde à part nous-mêmes, se faire tout petit devant le banquier mendier, un crédit pour chaque problème. Être libre, on ne l'est pas loin de soi. Je veux plus me sentir prisonnier de tout ce que les autres croient. Être libre, être libre. On n'a pas tout le temps pour ça. Si le bonheur c'est de briller, alors ce sera sans moi. sans moi, sans moi, sans moi, alors ce sera sans moi. Dis-moi, est-ce qu'on est mieux dans sa peau? Dans des choses à 500 euros. Il y en aura toujours un plus beau, frérot, dans le tout dernier lambeau. Puisqu'il faut se vendre, puisqu'il faut se rendre, puisqu'il faut tout prendre, je ne suis pas de ce monde.
Vous, Aurélien Barreau, vous êtes arrivé dans un univers scientifique à un moment précis. Vous dites dans plusieurs de vos livres, parce que vous êtes aussi le fruit d'une histoire qui a commencé avant vous et qui continuera avec vous et après vous. Vous dites que vous êtes arrivé dans un moment de recherche scientifique extrêmement important et où beaucoup de possibles s'ouvraient. Pourquoi ?
Remarquez, c'est peut-être une constance hein, que de considérer que l'époque que nous traversons est charnière, et sans doute toutes les époques ont eu cette même impression. Mais je trouve qu'il y a ici quelque chose d'un peu singulier au sens où il y a un paradigme, un modèle, une vision du monde qui marche très bien. Voilà, le Big Bang, l'univers à 13,78 milliards d'années, on comprend bien les particules élémentaires, on comprend bien l'histoire de l'univers, on comprend bien son devenir. Donc on a à la fois une très grande cohérence, une sorte de sentiment de contrôle sur la grande histoire cosmique, non pas contrôle bien sûr en termes de capacité d'action, mais en termes de capacité descriptive. Et en contrepoint de cela, il y a énormément de problèmes. On ne comprend pas ce qu'est l'essentiel de la masse de l'univers, on ne comprend pas pourquoi nous sommes là, parce que la matière aurait dû s'annihiler avec l'antimatière dans les premiers instants, on ne comprend pas pourquoi l'expansion cosmologique accélère, on ne comprend pas pourquoi il y a eu des singularités au départ ou au cœur des trous noirs, c'est-à-dire des divergences. Et je trouve ça passionnant, ce moment où on hésite un peu, on titube et on se demande si on va réussir à résoudre les problèmes les uns après les autres ou s'il faut une révolution globale qui permettra au contraire de changer radicalement notre image du réel.
Oui, mais vous avez des instruments de précision qui vous permettent justement d'en savoir plus, ou en tout cas d'en savoir un peu précisément. Parlez-nous de Planck, par exemple.
Alors, le satellite Planck, c'est une très belle expérience qui nous permet d'observer ce qu'on appelle la première lumière de l'univers, c'est-à-dire de remonter incroyablement loin dans le passé et de voir une photographie de ce qu'était le cosmos 380 000 ans seulement après sa naissance, pourrait-on dire, et ramener à l'âge de l'univers, c'est très peu. Vous voyez, à l'échelle d'une vie d'homme, ça correspondrait au premier jour de vie intra-utérine. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment la première jeunesse de l'univers. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la cosmologie aujourd'hui, donc la science de l'univers, est entrée dans une ère de précision. On peut mesurer l'essentiel des paramètres de l'univers, sa masse, sa vitesse d'expansion, son âge, et même ses caractéristiques dans les tout premiers instants, avec une précision remarquable, parfois même bien meilleure que celle de la Terre ou de celle d'un être humain dont on aurait perdu le passeport. Donc ça, c'est assez enivrant, parce que nous comprenons quelque chose de notre histoire, mais en même temps, il faut garder en tête que tout peut s'effondrer du jour au lendemain et que peut-être nous faisons fausse route et que très vraisemblablement, il faudra un jour ou l'autre tout réécrire.
Cette histoire de recherche est collective. Elle ne prend pas en compte ni les frontières géographiques, ni les frontières scientifiques. C'est un laboratoire de recherche mondial, dites-vous.
Oui, ça c'est important et je crois que ça pourrait aussi servir d'exemple pour la société de façon plus globale, parce que en effet, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de propriété privée, il y a même une exigence de partage du savoir, il n'y a pas de nationalité qui tienne. C'est pas un monde idyllique. Il y a aussi, bien sûr, à la marge, des compétitions ou des invectives ou des déceptions, naturellement. Mais le fait qu'une intelligence collective puisse émerger dans une logique qui n'est pas une logique de prédation, c'est évidemment quelque chose qui serait tellement important à comprendre aujourd'hui du point de vue politique et économique qu'il y a peut-être en effet quelques leçons à en tirer.
C'est pour la recherche tout court ou c'est pour la recherche de l'humanité avec un grand H que se fait cette recherche collective?
Ah, moi je suis fatigué de l'humanité. Écoutez, il y a des humains magnifiques.
Mais vous en faites partie.
Ah oui, mais je ne l'aime pas, donc c'est pas grave. Non, mais bien sûr que beaucoup de spécimens humains sont merveilleux, peut-être même la totalité d'entre eux, à dire vrai. Mais écoutez, nous partageons cette planète avec 7 millions d'espèces animales que nous avons tellement réifiées et tellement oubliées. Moi, ce qui m'intéresse dans la science, ce n'est pas de chanter une nouvelle ode à la gloire de l'humanité. C'est au contraire plutôt d'être confronté à une vérité non humaine, fondamentalement non humaine, et d'essayer de comprendre quelque chose d'un réel qui nous dépasse et qui manifestement ne nous attend pas.
Dans cette recherche scientifique ô combien difficile, il y a des individualités qui émergent. Récemment et pendant des décennies, nous avions eu notre idole, il s'appelait Stephen Hawking. Vous parlez d'ailleurs de Stephen Hawking dans plusieurs de vos livres. Je vous propose de l'écouter à propos de l'humanité et de l'espace. C'est une archive INA du 10 août 2010.
« J'entrevois de grands dangers pour l'espèce humaine. À plusieurs reprises par le passé, notre survie s'est jouée à un rien. La crise des missiles en 1963 en est un bon exemple. La fréquence de telles menaces va probablement augmenter à l'avenir. Nous devrons nous montrer prudents et avisés pour les écarter toutes avec succès. Mais je suis un optimiste. À condition d'éviter une catastrophe au cours des deux prochains siècles, notre espèce devrait pouvoir se sauver au fur et à mesure qu'elle se dispersera dans l'espace. Si nous sommes les seuls êtres doués d'intelligence de la galaxie, nous devrions pouvoir assurer notre survie. Mais nous entrons dans une période de plus en plus dangereuse de notre histoire. Notre population et l'exploitation des ressources limitées de la planète Terre s'accroissent de manière exponentielle, ainsi que notre capacité technique à modifier notre environnement pour le meilleur et pour le pire. Mais les instincts égoïstes et agressifs qui ont favorisé notre survie par le passé sont toujours inscrits dans notre code génétique. Il sera assez difficile d'éviter une catastrophe au cours du prochain siècle, et ce sera encore plus dur dans un millier ou un million d'années. Notre seule chance de survie à long terme, c'est de ne pas rester sur Terre, mais de nous déployer dans l'espace.
Nous venons d'entendre le discours de Stephen Hawking, c'était en 2010. Vous, Aurélien Barrault, vous travaillez sur des thématiques très proches de celles de Hawking, notamment les trous noirs, on en a parlé tout à l'heure. Dans ce que vient de dire Stephen Hawking, il y a des choses qui font partie aussi de votre ADN, si j'ose dire, c'est-à-dire de votre expertise de grand scientifique pour essayer de penser l'avenir. Et il y a aussi des choses peut-être qui en diffèrent. Est-ce que vous pensez que la médiatisation qui a été faite auprès de Stephen Hawking et la grandeur de ses découvertes lui permettent de faire l'oracle, comme nous venons de l'entendre ?
Écoutez, incontestablement, Stephen Hawking est un grand scientifique. Il a contribué de façon majeure à la physique des trous noirs, à la théorie quantique des champs en espace courbe, et je ne peux que lui rendre hommage pour ses travaux visionnaires. Dès qu'il ne parle pas de science, je pense que Stephen Hawking dit énormément de bêtises. Il a le droit de les dire, puisque moi-même je me permets de parler hors science. Donc en tant que citoyen, il est tout à fait légitime qu'il s'engage, mais je crois qu'il a tort. Écoutez, la crise des missiles, c'est vrai, ça a été un gros problème. On n'est pas passé loin d'une catastrophe nucléaire. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas du tout besoin de ça pour aller vers une catastrophe. La catastrophe, le biocide, l'écocide qui est actuellement en cours sur Terre, qui est acté, ne nécessite même pas une guerre nucléaire pour que nous soyons dans la sixième extermination massive de la vie. Quand il se demande si nous sommes les seuls êtres intelligents de la galaxie, c'est problématique. Évidemment que les animaux sont des êtres intelligents, nous avons simplement fait là encore acte d'arrogance en ne comprenant pas que leur intelligence doit être évaluée suivant des prismes qui ne sont bien sûr pas les nôtres. C'est très choquant, finalement, de voir un homme du début du XXIe siècle penser encore que l'intelligence est le propre de l'homme. C'est même un peu ridicule et scientifiquement, littéralement, faux. Quant à l'idée que notre avenir soit de se déployer dans l'espace, là, je pense qu'on confine au délire, d'abord parce qu'on ne saura pas le faire, croyez-moi, et ensuite parce que quand bien même on saurait le faire, ce serait infiniment triste. Enfin, rendez-vous compte que certains fous, aujourd'hui, essayent d'aller faire du terraforming, c'est-à-dire de transformer la planète Mars en quelque chose qui ressemblerait à la Terre, alors même que nous dévastons ce monde, qui n'est pas encore tout à fait mort, en considérant comme dommages collatéraux l'immense majorité des humains qui, bien sûr, ne pourront pas venir sur Mars, et qui seront donc simplement perdus dans l'affaire, et les milliards de milliards d'autres vivants sensibles qui ne sont même pas concernés par cette folie littéralement délirante.
Alors, il y a plusieurs choses absolument passionnantes à l'intérieur de votre itinéraire, de votre parcours et de vos engagements, Aurélien Barreau. D'abord parce que vous êtes un scientifique qui utilisait un langage pédagogique nous permettant de comprendre, évidemment pas tout de ce que vous faites, mais on peut essayer de s'approcher de votre esprit de recherche. D'autre part, parce que vous êtes engagé. Mais cet engagement, manifestement, vous le dites, vous l'écrivez, vous l'exprimez, cet engagement en tant que citoyen du monde ne vient pas de la qualité de vos recherches scientifiques. Donc, comment s'est passé le point de basculement et comment est née cette colère contre la manière dont nous gaspillons nos possibilités d'être humains dans le monde ?
Oui, effectivement, je n'ai aucune légitimité à me prononcer.
Si, vous êtes un savant quand même, donc vous dites un certain nombre de vérités pour le grand public.
Soyons honnêtes, je le dis entre nous, hein, ça ne sortira pas de ce studio. Je m'en sers, et je n'ai aucun scrupule à m'en servir. Bien sûr qu'être astrophysicien vous donne un certain crédit. Mais quand je m'exprime sur l'érosion de la vie sur Terre, en réalité, je suis totalement hors de mon champ de compétences. Je vous remercie de rappeler que je le dis systématiquement. Mais écoutez, je crois que face à une catastrophe sans précédent, vous savez qu'aujourd'hui, on a la certitude que la manière dont l'humanité marquera son passage sur Terre, c'est par la sixième extinction massive du vivant. Dans 1 million d'années, la seule trace qui restera de l'humanité, c'est dans les fossiles, le fait que la vie a périclité instantanément, sans cause météoritique et sans cause géologique. Bon, c'est une catastrophe absolument extraordinaire. Et je crois que face à ça, tout est bon. Écoutez, permettez-moi l'analogie, mais si vous êtes en train de découvrir un camp d'extermination, si vous êtes en train de découvrir un crime de guerre, si vous êtes en train de découvrir un génocide, je crois que qui que vous soyez, il est de votre devoir de tenter d'y mettre fin, quand bien même vous usurperiez un peu vos titres universitaires pour prendre la parole et pour rendre les choses connues. Moi, j'ai aucun scrupule aujourd'hui à utiliser de tous les moyens à ma disposition pour tenter d'amoindrir un peu notre velléité à détruire le monde.
Et comment s'est passé cet éveil citoyen ?
Ah non, mais l'éveil...
Depuis que vous étiez tout petit.
Exactement. Moi, je militais déjà pour ce genre de choses quand j'avais 10 ans. Sauf que quand j'étais enfant ou adolescent, on me prenait pour un doudingue. Je faisais beaucoup rire mes camarades. J'étais plutôt, je crois, sympathique, plutôt, je crois, bon élève. Donc, on me pardonnait cette petite folie. Mais ce qui a changé, ce n'est pas mon discours. C'est la réception que la société est prête à donner à ces vérités scientifiques. Mais vous savez, j'étais ce matin même à un forum avec des ministres, des chefs d'entreprise, des grands décideurs, des gens extrêmement sérieux. Je vais rarement à ce genre d'endroit. Je l'ai fait pour une fois. Et ils ne se rendent pas compte du tout. Ils ne se rendent absolument pas compte. Ils sont à milieu d'avoir intégré la révolution qui serait nécessaire pour venir à bout de cette crise. On parle parfois de gens radicalisés dans les militants, mais c'est complètement faux. Les radicalisés, ce sont pas les militants. Ce sont les chefs d'entreprise qui pensent pouvoir sortir d'un problème systémique avec des petits ajustements à la marge. Ils sont scientifiquement irrationnels. Voilà, donc je crois qu'il faut faire notre possible par rapport à cette catastrophe. Mais elle n'est pas seulement écologique, hein. Elle est aussi sociale, elle est aussi coloniale, elle est aussi raciste, elle est aussi sexiste. Enfin voilà, les problèmes sont nombreux et je crois que ça serait quand même un peu indécent aujourd'hui de ne pas prendre à bras le corps ce sur quoi nous pouvons agir.
Nous pouvons agir. Donc nous sommes de plus en plus nombreux, nous citoyens lambda, à épouser les mêmes thèses que vous. Mais nous ne sommes rien, nous ne pouvons pas décider ni pour les autres, ni pour la planète, nous pouvons décider pour nous. Des petites choses, dites-vous, Aurélien Barreau, peuvent participer d'une révolution silencieuse qui pourrait être contagieuse, comme toutes les révolutions, d'une amélioration de nos responsabilités, nous, êtres humains, par rapport au reste de la planète et aux vivants. Est-ce que les petites choses pourront engendrer des grandes choses ? Et comment avertir, effectivement, ceux, parce qu'ils sont plus masculins que féminins hélas, qui nous gouvernent.
Oui, c'est sûr que trier nos déchets et fermer le robinet en se lavant les dents n'est pas ce qui va sauver le monde. Hein. Donc les petits gestes, c'est intéressant exclusivement si ça permet de mener rapidement à une révolution systémique. Si c'est simplement pour se donner bonne conscience et continuer comme avant, c'est presque pire que tout, parce qu'on va simplement reculer de quelques années ou de quelques mois une issue qui est fatale.
Tout en se donnant bonne conscience.
Voilà, tout en ayant l'impression d'avoir les mains propres. Donc ça, c'est pas du tout ce dont je me fais l'avocat. Non, je crois qu'il faut aujourd'hui un travail axiologique, c'est-à-dire relatif aux valeurs, absolument fondamental et intégrer que tout n'est pas compatible avec tout. Donc finalement, la question est assez simple. Est-ce qu'on préfère nos enfants ou notre argent? C'est presque aussi simple que ça. Est-ce qu'on préfère gagner un point de croissance du PIB et envoyer la vie au tapis? Ou est-ce qu'on préfère renouer avec un rapport apaisé à l'ensemble des autres espèces et à l'ensemble des autres peuples, quitte à perdre un peu de confort? Je crois que la question est quand même relativement élémentaire, et soit on devient effectivement adulte très rapidement, soit on continue comme actuellement, c'est-à-dire on fait les sales garnements dans la cour de récréation qui ne veulent pas lâcher leurs jouets, sachant que leurs jouets emmènent l'ensemble du vivant dans une situation intenable.
Donc c'est une révolution des mentalités que vous proposez, basée sur une prise de conscience, oui, des certitudes d'aller
Écoutez,
dans le mur de notre propre espèce. C'est ça que vous dites.
Remettre à plat. Finalement, ça c'est le côté un peu enthousiasmant, parce que évidemment toutes les époques ont voulu faire la révolution. Bon, mais nous on n'a pas le choix. C'est presque la bonne nouvelle. Si on ne fait pas la révolution, on est foutu. Et donc finalement, nous sommes poussés par le monde, j'entends au sens presque physico-biologique du terme, à opérer une révolution radicale. Et cette révolution radicale, elle commence par une interrogation permanente sur ce qui est péjoratif ou ce qui est amélioratif, par exemple. Globalement, vous l'avez rappelé, il y a quelques instants, nous sommes globalement gouvernés par des hommes, et nous savons que symboliquement, les hommes prédateurs sont plutôt considérés comme des gens qui ont réussi, qui font étalage de leur pouvoir. Il faut changer ça. Je crois qu'il faut absolument qu'on se demande, mais cette prédation décomplexée, finalement, dois-je la voir comme un marqueur d'intelligence, de réussite, de bienveillance? Probablement pas. Et lorsque on remet en cause complètement la hiérarchie de ce qui, pour nous, est attrayant ou repoussant, ça a un effet très drastique sur le réel. Je crois. Il faut commencer par là. Après, bien sûr, il y a énormément de leviers et de moyens d'action, mais à l'échelle individuelle, ils sont très délicats à mettre en œuvre.
Dites-moi, Aurélien Barreau, il y a des élections dans 2 ans. Il paraît qu'il n'y a que 2 personnes qui, pour le moment, tiennent la corde. Cédric Villani se présente bien à la mairie de Paris, et vous à la présidentielle, qu'en dites-vous?
Ah ben écoutez,
troisième homme,
vous me l'apprenez,
si j'ose
donc
dire.
Voilà, nous découvrons ce soir ma candidature. Non, sérieusement, moi je ne vais pas m'engager en politique. Je pense que c'est très important que la parole soit située depuis différents points de vue. Voilà. Moi, je veux pouvoir continuer à dire des conneries. Je veux n'avoir de compte à rendre à personne. Je veux pouvoir continuer de citer des auteurs qui sont politiquement incorrects. Je ne veux pas être prisonnier de la sclérose qui aujourd'hui touche le langage, qui fait que beaucoup de mots sont interdits, que beaucoup de champs de pensée sont interdits. Bon, écoutez, nous verrons qui s'engage. J'espère que certains seront honnêtes, mais il faudra à la fois du courage et une grande capacité de conviction. Et jusqu'à maintenant, je ne vois pas l'homme ou la femme providentielle.
Merci beaucoup, Aurélien Barreau. Je rappelle quelques-uns de vos titres, Trou noir et espace-temps. L'animal est-il un homme comme un autre? Avec Jean-Luc Nancy, Dans quel monde vivons-nous? Livre vraiment incroyablement passionnant. Et le dernier s'intitule Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est un best-seller. Merci beaucoup. I tried for you. Trying to see through all smoke and it wouldn't move. What could I do? I touch your head to pour your thoughts into my hand, but now I still me. You are still you. C'est avec Strange de Céleste que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Tiffany Battisté qui était à la technique. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Tous les livres de Aurélien Barraud sont disponibles en livre de poche. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour la suite de son Very Good Trip.